SIPCA, le salon de l'immobilier bas carbone, du 22 au 24 septembre 2022, au Grand Palais éphémère Champ de Mars à Paris, sur Carbone Zéro la radio.
Je suis ravi d'accueillir sur plateau Thomas Péridier. Bonjour Thomas.
Bonjour Fabrice.
Vous êtes directeur de la promotion tertiaire chez Crédit Agricole Immobilier. Promotion tertiaire, donc les bureaux.
Exactement.
Juste avant de préparer, on disait c'est vraiment le thème du moment, mais on a l'impression que ce thème, l'immobilier bas carbone, ça va être le thème pour un bon moment.
C'est un thème d'avenir et c'est ce qui doit nous préoccuper au quotidien. C'est un fil rouge ou un fil vert en ce qui nous concerne chez Crédit Agricole Immobilier, parce que cette thématique infuse notre façon de choisir nos nouveaux projets et infuse également sur la façon de concevoir et développer nos projets.
Mais alors justement, Thomas Péridier, vous disiez nos nouveaux projets. On a l'impression que le virage a été pris extrêmement, je dirais rapidement, c'est un sujet, bon, on n'en parlait peut-être pas encore, où, voilà, il y avait des tentatives, il y avait des expérimentations. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est un mouvement, une lame de fond, et que finalement, on ne pourra plus construire autrement. Est-ce que je me trompe ?
Non, vous ne vous trompez pas du tout. C'est indispensable de viser la sobriété carbone. Alors, il est bien évident que suivant les secteurs où on construit, ça va plus ou moins vite. Et encore une fois, en Île-de-France, à Paris, vous pouvez vous permettre d'accélérer sur ces sujets, là où en région, l'économie des projets et les filières sont plus compliquées à activer. Si je prends deux opérations un peu au spectre opposé, que sont la Porte de Montreuil, que l'on développe, c'est un projet mixte de bureaux, co-living, logements qui vise le zéro carbone global. On ne développe pas le projet exactement de la même façon que les projets que l'on développe en région et qui sont dans des économies beaucoup plus contraintes. Donc oui, ça va plus ou moins vite. Oui, les acteurs, les usagers de ces bâtiments peuvent accélérer ou pas cette décarbonation de l'immobilier.
Ouais, cette décarbonation de l'immobilier qui passe par immobilier vert, en tout cas. Plus difficile, vous nous dites, finalement, dans des zones non tendues que des zones tendues. Pour autant, avec la nouvelle donne énergétique, les prix qui vont, on le sait, de toute façon, continuer à grimper, quelle que soit la configuration du conflit russo-ukrainien, est-ce qu'on ne va pas demain devoir aussi être plus économe, plus frugaux, pour reprendre un terme à la mode, dans la consommation, c'est-à-dire dans la conception de ces bâtiments ?
Si, bien sûr, il va falloir être plus efficient, mais je pense qu'il ne faut pas regarder le sujet que par la problématique des fluides, parce que la problématique des fluides, c'est quelques euros sur un bilan de charge pour un preneur. Il faut surtout s'inscrire dans le long terme, et le long terme, c'est de décarboner nos bâtiments, donc d'avoir des réflexions sur la réarchitecture, avoir une réflexion sur comment, au travers de bâtiments plus industriels, j'arrive à retrouver une autre économie de projet qui permettent d'aller sur des secteurs où les valeurs locatives sont plus faibles et où les entreprises ont un peu moins les moyens que quand vous êtes à Paris dans le 8e arrondissement, clairement.
Oui, donc en tout cas, vous nous parlez de ce projet de réaménagement Paris-Porte de Montreuil, remporté dans le cadre du concours Reinventing City. 80% des produits utilisés proviennent de circuits courts. Là aussi, c'est important, on peut les développer. C'est plus facile, là aussi, dans des zones tendues, région parisienne, où on peut le faire, on peut également avoir ces bonnes pratiques en région.
On peut et on doit. Et c'est ce que l'on fait sur 7 sites un peu partout en France, à Pau, à Dijon, à Grenoble, à Saint-Étienne, où on a développé un projet de bâtiment bas carbone que l'on duplique et que l'on adapte en fonction des sites. Donc là, l'idée, c'était d'arriver à développer des projets extrêmement vertueux. Ce sont des projets que l'on positionne sur des parcelles qui font de l'ordre de 3000 m² avec un stationnement extérieur, pas de sous-sol pour limiter l'empreinte carbone, une structure bois, une compacité de bâtiment qui permettent d'être plutôt efficient d'un point de vue énergétique, mais tout en privilégiant un excellent accès à la lumière du jour. C'est aussi tout un travail sur l'enveloppe et sur la proportion de surfaces vitrées qui sont, comme vous le savez, très déperditives. Et puis c'est un travail sur les matériaux que l'on emploie, puisque c'est aussi la clé. Et donc au-delà de leur employer du faux plancher, de la moquette, on réutilise également des peintures, ce qui est un peu moins habituel. Voilà, et c'est comme ça qu'on arrive au fur et à mesure à décarboner.
Alors, réemploi, économie circulaire, et puis dans la conception, la réversibilité. C'est le gage pour vous d'une durée de vie plus longue des immeubles, c'est-à-dire aujourd'hui peut-être des bureaux, mais demain, ça pourrait devenir autre chose. Pourquoi pas être reconverti en logement ? Ça, il faut l'anticiper, il faut faire dès la conception.
Exactement, et surtout, il ne faut pas s'arrêter uniquement aux matériaux en se disant « je vais être bas carbone uniquement parce que je vais faire appel à du béton de chanvre ou une structure bois ». Non, un projet réussi, c'est un projet qui va permettre d'avoir tout au long de sa vie différents types d'aménagements, de destinations. Et c'est vraiment ça ce qu'il faut viser. On part en ce moment beaucoup d'usage des bâtiments de bureaux en flex-office, avec des espaces collaboratifs. Mais peut-être que dans 3-4 ans, le flex-office, les espaces collaboratifs, ce sera fini. Et pour autant, le bâtiment sera toujours là. Et donc, dans 3-4 ans, on n'aura pas envie de démolir ou de refaire les aménagements. Donc, je pense qu'une des missions qui incombe aux promoteurs, c'est véritablement de construire des bâtiments qui pourront avoir plusieurs vies et pourront également devenir du logement de demain. Et c'est ce que l'on fait d'ores et déjà sur des projets où on étudie l'épaisseur des bâtiments et la structure des bâtiments, les verticalités, ascenseurs, escaliers, pour que demain, ces bâtiments, ils deviennent du logement, par exemple, en transformant l'épaisseur d'un bâtiment de bureau qui fait 18 mètres en un bâtiment de logement qui fera un peu moins de 15 mètres.
Et ça, bien sûr, il faut l'anticiper. Thomas Peridier, vous qui êtes spécialiste des bureaux, directeur de la promotion tertiaire, rapport au Crédit Agricole Immobilier, on a une question quand même de fond qui est que la crise sanitaire est passée par là, le bureau s'est complètement transformé. On y va, on n'y va pas. Les accords de branche font que c'est 1-2 jours de télétravail. Ça révolutionne la façon de vivre, d'habiter le bureau. Quel est l'impact, vous, quand vous discutez justement avec les directions, avec ceux qui sont les porteurs de projets dans le futur? Comment vous voyez ces aménagements? Est-ce qu'on va toujours aller au bureau? Et quelle tête, finalement, quel visage il va avoir ce nouveau bureau?
Alors, contrairement à ce qu'on aurait pu penser, le bureau n'est pas mort. Bien au contraire, le bureau se transforme et le bureau est plus que jamais le lieu fédérateur, le lieu qui va véhiculer la culture d'entreprise et le sentiment d'appartenance. Donc, effectivement, le bureau, on ne va plus y faire exactement la même chose qu'il y a quelques années. Il y a quelques années ou quelques mois encore, on allait au bureau, on était derrière un écran, on était sur Word, sur Excel, tout seul dans notre coin. Demain, c'est fini ça. On ira au bureau pour collaborer à 2, à 4, à 10, à 100. Et donc, il faut que les espaces de bureau permettent de recevoir ces différents formats d'échange qui vont être finalement le lieu de vie de l'entreprise. Parce que le bureau, ce sera le lieu où on viendra se former, où on viendra échanger, où on viendra décider et où on viendra s'acculturer. Voilà. Et ce ne sera pas un lieu où finalement on est un peu dans son coin.
D'accord, on avait dans les années 80, je caricature, son petit bureau fermé, plus il était grand, plus vous étiez dans une position de force et de puissance. Ensuite on a eu les open space, ensuite maintenant on a eu les flex office. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va trouver dans ce bureau? C'est-à-dire un mélange justement de flex office, on va encore le pousser, plus des salles de réunion ou des salles d'échange, comme vous disiez?
Oui, complètement. Je pense que le bureau est devenu un lieu de, encore plus peut-être qu'avant, de fierté, d'appartenance. Oui. À l'entreprise. Et donc, pour véhiculer ce sentiment d'appartenance, effectivement, là où avant, on était sur des 15-20% de salles de réunion par rapport à la totalité des surfaces, et bien maintenant, on voit qu'on monte à 25-30% d'espaces de réunion, d'espaces collaboratifs pour pouvoir échanger.
25-30%,
voilà.
Déjà.
Et c'est véritablement une tendance de fond. Et l'autre tendance de fond, c'est on en a pas encore parlé, c'est la localisation de ces immeubles de bureaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est primordial pour des chefs d'entreprise d'être situés sur des nœuds de connexion en transport en commun ou des nœuds routiers, quand on est en région et qu'on n'a pas la chance d'avoir les transports en commun à proximité. Et ces nœuds de connexion, ils doivent s'accompagner de services. Et c'est véritablement ce qu'attendent les utilisateurs aujourd'hui. C'est d'être dans des lieux de vie, des lieux d'échange, des lieux où il y a une grande porosité avec les aménagements urbains. et les équipements.
Ouais, d'autant que voilà, c'est
pas des lieux autarciques. Si
alors sans doute pas. Et puis en plus avec une grande qualité de service aussi. De plus en plus, c'est une extension finalement de sa maison. La maison devient bureau. Le bureau doit venir aussi maison avec du sport, des livraisons, etc., etc. Et de la restauration bien évidemment. J'ai une dernière question pour vous. C'est bien sûr ce premier SIPCA, salon de l'immobilier bas carbone. Depuis ce matin, on est juste à côté des salles de conférence. Ça ne désemplit pas. Est-ce que vous attendiez à un tel succès? Est-ce que ça ne dit pas quelque chose justement de cette envie de la part de la profession promoteur, ensemble de la profession immobilière, de, voilà, de changer de monde aussi?
Je ne suis pas surpris, je suis très heureux. Je ne suis pas surpris parce qu'on le vit au quotidien, on le vit au travers de nos clients, on le vit au travers des attentes des élus. Et donc la machine est en marche déjà depuis quelques temps, et là on voit que les choses s'organisent, donc c'est pas une surprise, c'est au contraire une grande joie de voir que ça y est, ça prend forme, ça s'accélère, et c'est absolument nécessaire. Maintenant il faut pouvoir apporter en fonction des projets, des localisations, la réponse adaptée, et pas être dans du dogmatisme, parce que ces sujets-là à l'heure actuelle nécessite voilà, beaucoup de clairvoyance et d'intelligence.
Voilà, l'immobilier bas carbone, en tout cas, on n'a pas fini d'en discuter, et ça sera effectivement le cas sur cette radio Carbone Zéro, la radio. Un grand merci, Thomas Péridier. Je rappelle que vous êtes directeur de la promotion tertiaire chez Crédit Agricole Immobilier. À très bientôt sur notre antenne.
Merci à vous.
SIPCA, le salon de l'immobilier bas carbone, du 22 au 24 septembre 2022 au Grand Palais Éphémère, Champ de Mars à Paris, sur Carbone Zéro la radio.